Dieu notre Père, nous te demandons maintenant d'ouvrir nos âmes à ta parole éternelle. Dans les contingences de nos vies, nous peinons parfois à tenir ferme. Que ta parole ce matin nous guide, nourrisse et affermisse notre foi. Envoie sur nous ton Esprit Saint pour nous aider à la comprendre et à la faire nôtre. Qu'elle vienne nous toucher, nous enseigner et nous encourager là où nous en avons besoin, en tant qu'individus et en tant que communauté. Bénis tout ton peuple réuni ce matin à l'écoute de ta parole. Bénis les jeunes qui reçoivent la bénédiction de leur fin de catéchisme et qui pour la plupart confirme les vœux de leur baptême et inspire celles et ceux qui prêchent. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Nous avons deux lectures ce matin proposées par le lectionnaire suisse en ce dimanche des Rameaux. La première se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, c'est le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous lisons dans Matthieu, au chapitre 21, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. » Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée.
Notre deuxième et dernière lecture se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens. Il s'agit d'un magnifique texte que l'on appelle l'hymne aux Philippiens, décrivant la kénose du Christ, c'est-à-dire son abaissement, son dépouillement. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen.
C'est sur le deuxième texte, l'hymne aux Philippiens, que j'ai choisi de prêcher ce matin. Un nom, avoir un nom, se faire un nom, ou être un anonyme. Quand on se présente, c'est la première chose qu'on dit de soi, parfois la seule d'ailleurs, notre nom. Notre nom figure tout en haut de notre CV. Il est au centre de nos cartes de visite. Parfois, il est seul. Nous savons que certains noms sonnent et claquent plus que d'autres. Je m'appelle Bond, James Bond. Tout de suite, ça pose les choses. Plus sérieusement, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, donner un nom à une personne, c'est déterminer sa destinée. Le nom a une importance peut-être beaucoup plus qu'aujourd'hui, où parfois on cherche le nom de ses enfants au hasard dans un livre. Il y a quelque chose plein de sens dans le nom. Et c'est ainsi que Dieu, par exemple, change le nom d'Abraham en Abraham, ou de Jacob en Israël, au moment où il leur offre une nouvelle vie, pour leur donner la nouvelle direction de leur vie, pour leur dire vers quelle destinée ils sont appelés. Quelle est leur vocation ? Vocation, c'est nom. Donc, le nom dit la dignité de la personne. Avoir un grand nom, c'est être quelqu'un. C'est être puissant. On a un exemple dans le premier livre des Rois, quand Salomon, le jeune Salomon, accède au trône. Il est sacré roi et les serviteurs du roi viennent alors féliciter David, son père, qui est le roi sortant, et ils lui disent « Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre encore que le tien et qu'il magnifie son trône plus que le tien. » Voyez le lien entre le nom, la renommée, la puissance et même la gloire. Et puis, on sait qu'à contrario, un nom peut porter l'indignité et la honte. Ce n'est pas un hasard si plus personne n'ose appeler son fils Adolphe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, notre monde actuel, il en sait quelque chose du pouvoir du nom. Juste un exemple dans comment est-ce que notre monde fonctionne en termes de marketing, le personal branding. J'essaie de prendre mon meilleur accent anglais pour parler du personal branding. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est. Ceux qui sont dans le marketing ou qui sont dans la vie active actuellement en savent certainement quelque chose et l'utilisent. Il s'agit de faire... sa propre promotion en utilisant les mêmes outils marketing qui sont utilisés que pour la promotion des marques, des grandes marques. Donc, le but est d'augmenter sa notoriété et sa visibilité auprès des entreprises, auprès des clients, auprès des recruteurs. Faire de son nom une marque qu'on gère comme une marque. Être connu, Être visible, on sait qu'aujourd'hui le mot visibilité, ça signifie quelque chose. Soigner sa bonne réputation. Tout ça, c'est important pour apparaître, par exemple, en premier dans Google quand quelqu'un fait une recherche et que vous êtes un des acteurs dans le domaine qu'on recherche. C'est pas mauvais en soi, hein, le personal branding, mais ça pose quand même la question, qu'est-ce qu'on met en avant de soi et avec quels moyens on va pousser son nom, sa propre marque. Fut un temps que certains d'entre vous ici qui ont moins de 20 ans ont connu, où pour être connu, pour être célèbre, pour accéder à une certaine notoriété, il fallait faire preuve de talent, d'accomplissement, certains avérés et manifestes. Et puis, il y a eu un moment de basculement. Est-ce que vous sauriez me dire, enfin je pense, quand est-ce que ce moment est arrivé ? Où ce ne sont plus ni les talents, ni les compétences qui ont fait qu'on devient célèbre. Une date. Avec Internet, les influenceurs, vous direz quoi comme date ?
Fin des années 90.
C'est à peu près ça. Moi, je dirais qu'il y a eu un phénomène dans le paysage audiovisuel qui s'appelle la télé-réalité et qui a commencé, sauf erreur, en 2001. On en a parlé en préparant cette prédication, j'ai pensé à ça, parce que ça a fait, pour ceux qui suivent les actualités, on en a pas mal parlé cette semaine. En 2001, a commencé ce show télévisé qui s'appelait le Loft Story, c'est ça, Loft Story, qui mettait en scène 24 heures sur 24 des personnes qu'on mettait ensemble dans un appartement. Et évidemment, vous imaginez le sordide, plus on allait dans de l'impudicité, plus on dévoilait des choses de l'intime, et plus c'était trash, et plus l'audience augmentait. Donc évidemment que toutes les chaînes télévisées ont voulu inventer leur émission de télé-réalité, il y en a aujourd'hui des dizaines, voire des centaines. Et on découvre donc que la célébrité, tout d'un coup, ne s'acquiert plus parce que vous avez fait 20 ans d'études dans un domaine et que vous avez prouvé votre expertise, ou vous avez eu des résultats dans telle chose, vous avez accompli des exploits, vous avez fait don de soi, abnégation. N'importe qui, en se surexposant, pouvait être une star, en ayant une audience parfois vertigineuse. On en a parlé cette semaine parce que la première star de la télé-réalité, Loana, est décédée cette semaine, à l'âge de 47 ans. Donc Loana avait réussi de faire de son nom, de son prénom même, peu de gens savent quel était son nom de famille, une véritable marque, quelque chose qui compte. Ce sont des milliers, voire des millions de gens d'une certaine génération qui ont adoré véritablement sa personne. Puis évidemment, avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça s'est encore amplifié parce que du coup, la télé n'était même plus utile pour être connue. Tout le monde peut devenir influenceur et avoir des milliers de followers en se montrant, en ayant les bonnes techniques de com. Alors il y a quand même de la compétence, il faut savoir se vendre et puis se mettre en avant, je dis pas. Toujours pour s'élever, pour gagner en autorité, en puissance, en nombre de personnes, etc. Et économiquement, bien sûr. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce qui caractérise le style de vie de Jésus, c'est, je dirais, le fait d'obéir et de servir. C'est une vie où où Jésus obéit en servant, où il sert en obéissant, je ne sais pas dans quel sens on peut le prendre, sa logique qui guide sa vie, c'est l'abaissement. D'ailleurs, Dieu descend du ciel pour venir sur la terre. C'est un mouvement du haut vers le bas. Tout est déjà dit quand on y pense. C'est le ciel qui vient habiter la terre, qui vient nous rendre visite. Donc, Jésus quitte la gloire céleste pour se dépouiller, c'est-à-dire se mettre à nu, abandonner, quitter, s'appauvrir volontairement. C'est l'inverse total de la logique du monde, où le but est de s'élever, comme on a dit. C'est la logique qui traverse tout l'Évangile. Parce que Dieu est du côté des humbles, dès le début. Jésus est l'exemple même du roi serviteur. Ça ne va pas bien ensemble, roi et serviteur. Quand vous êtes roi, vous avez une armée de serviteurs dans votre cour. Quand vous êtes puissant, vous avez des milliers de followers qui vous adulent. Jésus est pleinement serviteur, il est pleinement roi. Et on l'a vu dans le texte du jour, il rentre à Jérusalem sur un ânon, le petit d'un âne. Déjà que l'âne est un animal sous-classé par rapport au cheval, qui est la tribu des rois, il rentre sur le petit d'un ânon. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire dans tout le cosmos, dans tout l'univers. Quand Paul écrit aux Philippiens, c'est pour les exhorter à vivre en plein accord, à avoir la même pensée, ce sont les mots qu'il utilise, à rechercher l'unité dans un esprit d'humilité. Et pour lui, la clé, c'est l'humilité. Alors l'humilité, c'est un mot qu'on peut interpréter de beaucoup de façons. Ici, humilité signifie service, esprit de service. Regarder les autres plus grands que soi, vivre sa vie comme un don pour les autres. L'exemple que Paul prend pour inspirer les chrétiens de Philippe, c'est l'exemple ultime du maître, de Jésus-Christ. On ne peut rien dire ni redire à l'exemple d'humilité, de service qu'a été celle de Jésus. Paul sait, et l'âme humaine n'a pas changé depuis 2000 ans, que c'est une tentation humaine, et c'est une tentation de chacun, de chacune, et qui est excitée de plus en plus par notre monde, comme on l'a dit, de se faire un nom. On parle d'une logique individuelle, mais aussi d'une logique de groupe, de communauté. Aujourd'hui, c'est notre jour de l'assemblée paroissiale, alors nous parlons et nous nous occupons de notre paroisse. Notre paroisse aussi peut être prise dans cette tentation de se faire un nom. Alors vous allez me dire, notre paroisse a déjà un nom, et pas des moindres, Terre Sainte. Terre Sainte, Céline, c'est pas mal. Sera-ce un nom, comme pour Abraham, pour Israël, que Dieu nous a donné comme un programme, comme une destinée à méditer. Toujours est-il que nous pouvons réfléchir à ça. Nous sommes dans un contexte d'Église, à un moment de l'histoire de notre Église, en tout cas de l'Église vaudoise, où nous parlons d'Église 29. Nous en avons largement parlé dans les assemblées d'automne. Tout à l'heure, le conseil paroissial dans l'assemblée va nous parler de la vision, de la mission pour notre paroisse et de la stratégie. Alors il nous faut être vigilant. Il nous faut être vigilant car la tentation du succès n'est jamais loin. D'une certaine
certaine façon, on peut penser qu'Église 29 est une sorte de lutte pour que le nom de l'EERV, de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, ne disparaisse pas. Il reste un nom qui compte. Est-ce que notre paroisse est dans cette logique de dire « nous ne voulons pas disparaître » et rester un nom qui compte ? Nous allons vers la demande d'un régime d'exception, pour ceux qui ont suivi les discussions autour d'Église 29, alors on pourrait être tenté de dire « mais bien sûr, nous sommes exceptionnels ». À réfléchir. Quelles sont les réelles motivations qui nous animent ? Et comment est-ce que nous pouvons répondre à la vocation que notre nom porte en elle, donnée par Dieu ? Dieu nous appelle à servir, à le servir et à être serviteurs les uns des autres. Il nous appelle à aspirer aux choses humbles, même les plus humbles. Le but de tout cela, et nous l'avons lu, c'est sa gloire. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus abaissé et Jésus élevé, glorifié. Notre dignité, notre nom, notre renommée, elle ne s'acquiert pas. Elle ne s'acquiert pas, en tout cas, par nos propres efforts, par nos stratégies, les plus subtiles soient-elles. C'est Dieu qui la donne. C'est lui qui bénit ou pas nos actions, nos stratégies, notre chemin. Nous avons parlé de Loana. C'est triste de voir la descente aux enfers à laquelle cette femme a été ensuite confrontée. On n'imagine pas la souffrance de ce que c'est que de vouloir briller et de tomber ensuite, très bas. Désirer s'élever sans ancrage, sans lien à Dieu, c'est risqué. Et je le dis aux plus jeunes d'entre nous qui vivent dans ce monde. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, j'en suis sûre, c'est que nous ayons le souci de vivre devant lui, pour lui, dans l'obéissance à sa parole et à son appel, et non pas pour nous-mêmes seulement. Le reste, c'est lui qui nous l'accordera. La promesse de Dieu est toujours sur notre vie. Sa bénédiction est accordée aux humbles, dans le sens à ceux qui servent. Cette gloire, alors des fois on ne comprend pas très bien le mot gloire, on va comprendre la gloire ce matin comme la pleine manifestation de la présence de Dieu. Dieu est glorifié quand il est pleinement manifesté dans la vie, dans un lieu, dans une communauté. Est-ce que ce n'est pas ce que nous souhaitons pour notre paroisse ? Que la gloire de Dieu y rayonne ? Quand on dit paroisse, c'est le territoire paroissial, nos 9 villages de Terre-Sainte-Séligny. Proverbe 15, verset 33, « L'humilité précède la gloire. » Alors que, Proverbe 16, verset 18, « L'orgueil précède la chute. » Alors, je vous parlais de personal branding. Et je vous pose une question. Au vu de tout ça, quel est, selon vous, le personal branding de Dieu ? Quelle est, quelle pourrait, on risque une réponse, quelle pourrait être, en fait, le personal branding de Dieu ? Je vous ai endormi, hein ? Ben moi, j'ose une réponse. Je pense que le personal branding de Dieu, c'est Jésus-Christ. Puisque je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, on ne peut pas, et les Juifs aujourd'hui respectent immensément ça, on ne peut pas, Dieu n'a pas de nom. passe par différentes appellations pour le nommer, mais on ne peut pas nommer le nom de Dieu. Il est trop saint. Jésus-Christ nous est donné pour que Dieu ait un visage, pour que Dieu ait un nom, pour que l'on comprenne qui est ce Dieu, quel genre de marque il est, qu'est-ce qu'il a à offrir, qu'est-ce qu'il donne. Eh bien, ce personal branding, il est dans l'humilité, dans le service, dans la mort à la croix. Comme dit Paul, je n'ai pas d'autre fierté que ça à mettre en avant. Alors, vous comprenez le décalage que nous, en tant que chrétiens, nous avons par rapport à la logique du monde. Mais la bonne nouvelle pour nous, et c'est une extraordinaire nouvelle, c'est que nous n'avons pas à conquérir notre nom. Nous n'avons pas à user de tous les stratagèmes jusqu'à se prostituer s'il le faut pour être quelqu'un dans ce monde. Nous n'avons pas à être une marque qui se vend. C'est une compétition sans fin et on aura toujours de plus doués que nous. Il y aura toujours des plus jeunes qui arriveront encore meilleurs. Quelle angoisse! Dieu nous élève lui-même à la hauteur de sa grâce, à la hauteur de notre service aussi, de notre obéissance à sa parole. C'est Dieu qui nous élève. En tant que personne, en tant que paroisse, Dieu nous appelle à mettre nos pas dans ceux de Jésus-Christ, à oser servir, à oser s'abaisser, aspirer aux choses les plus humbles. Le succès, la gloire, la renommée, de toute façon, elle est acquise auprès de lui, déjà, dès maintenant. Nous la vivrons pleinement quand le royaume sera pleinement manifesté, dans l'éternité. Alors on peut se dire, oui, mais aujourd'hui, ben aujourd'hui, la notoriété, le succès, la gloire, j'ai envie de vous dire, Dieu s'en occupe. Ce n'est pas notre souci, c'est le sien. Il a élevé Jésus-Christ, il peut nous élever. À lui la gloire, au siècle des siècles. Amen.